Chapitre 3. Aucun peuple dans l'Antiquité n'a connu la distinction de la société religieuse et de la société civile. À peine sorti des premières années de l'enfance, l'homme échappe au sommeil des sens et il interroge ceux qui l'entourent. « Mon père, qui a fait le monde ?» Si vous répondez, « Je l'ignore », croyez-vous que vous soyez délivré à jamais de ces questions embarrassantes ? Votre enfant ouvre un livre ou voit un crucifix. « Mon père, quel est cet homme qu'on appelle Jésus ? Pourquoi a-t-il des temples et des autels ? Mon fils, il y a une partie du genre humain qui le considère comme Dieu. Mon père, qu'est-ce que Dieu ? Vous voyez bien qu'il vous est impossible de ne pas répondre, car ce n'est pas seulement la nature qui pose les questions religieuses, c'est l'histoire. Et ce n'est pas encore seulement l'histoire et la vue de la nature, c'est toute la pratique de la vie. Je défie qu'on puisse donner à un enfant un seul principe de morale, sans aborder par là même et sans résoudre, de façon ou d'autre, la question religieuse. Il faut répondre. Mais qui répondra? À qui cette charge appartient-elle? Est-ce au père de famille? Est-ce à la société dont il est membre? Est-ce à une espèce particulière d'hommes qu'on appelle des prêtres? Pendant tous les derniers siècles, nous avons laissé officiellement ce soin à cette classe d'hommes que nous appelons des prêtres. L'homme laïc et l'homme d'Église ont été deux hommes. Il y a eu l'Église et l'État. Il était censé y avoir deux ordres de science, la science des laïcs et la science du clergé. Cette distinction est-elle raisonnable? Est-elle légitime? Est-elle nécessaire? Non, elle n'est qu'un simple accident dans l'histoire de notre race. Aucun peuple dans l'Antiquité n'a connu véritablement la distinction de la société religieuse et de la société civile, dans le sens où cette distinction s'est établie en Europe au Moyen Âge. L'Inde, la Perse, l'Égypte et d'autres peuples encore ont vécu sous le régime des castes primitives. Il y avait chez ces nations une caste sacerdotale, mais l'Église et l'État n'étaient pas pour cela séparés. Les Brahmins, à la vérité, formaient sous bien des rapports une nation à côté d'autres nations ou d'autres castes qui avaient adopté leurs croyances. Mais tout homme né dans la caste des Brahmins était investi du sacerdoce. Aucun caractère spécial ne distinguait les membres de cette caste les uns des autres. Les Brahmins reconnaissaient bien des espèces de pontifes, des instituteurs religieux, mais ces pontifes n'étaient pour eux que des savants, des maîtres, des précepteurs. Quant aux autres castes, leur abjection, leur ignorance, leurs occupations et leur crédulité sans limite pour la théologie des Brahmins les faisaient marcher tête baissée dans la route qu'on leur avait tracée, sans qu'il leur vînt jamais à l'idée de s'immiscer dans des études que Dieu même, disait-on, leur avait interdites. Les Brahmins seuls, donc, étaient des hommes complets, mais tous l'étaient au même titre. Eux seuls avaient droit à la science, mais tous y avaient le même droit. Les autres castes étaient des hommes tronqués, c'étaient des hommes sortis du bras, de la cuisse ou du pied de Brahma, tandis que les Brahmins étaient sortis de sa bouche. L'existence de ces castes, exclues du sacerdoce, ne détruisait donc pas plus l'unité de la religion et de la société que l'existence de nos instruments de travail ou de nos bêtes de somme ne détruirait cette unité chez nous si elle y existait en effet aujourd'hui. Qu'il y ait eu, partout où ce régime a régné, des luttes acharnées entre la caste sacerdotale et les autres castes, c'est ce qui est indubitable et attesté par l'histoire. Mais il n'en est pas moins vrai que l'idée qu'un État puisse trouver en lui-même et indépendamment de la religion, une raison d'être, qu'un État puisse avoir une loi civile et une loi religieuse distincte, n'a jamais été comprise chez ces peuples orientaux. Les Juifs, à leur tour, n'ont pas plus compris cette distinction que les Égyptiens, chez qui Moïse s'était instruit. Point de caste, il est vrai, chez eux, car la tribu d'Aaron, bornée au rôle des sacrificateurs, ne domina jamais sur les autres tribus. Mais tout juif fut, en un sens, prêtre de Jéhovah. Tout juif entrait en partage de l'alliance avec Dieu d'une façon directe et sans intermédiaire. Il y avait bien chez les juifs des maîtres de doctrine, des rabbins, mais ces rabbins n'avaient aucun caractère religieux spécial, ils n'étaient que des savants, des instituteurs, comme les gourous chez les Indiens. La distinction de la religion et de l'État ne fut pas davantage connue des Grecs et des Romains. Il est vrai que chez ces deux peuples, la législation civile relevait moins directement d'une théologie unitaire et complète. Les Grecs et les Romains n'eurent point, à proprement parler, de théologie à eux. Ils reçurent d'emprunt leur religion et en partie leurs lois. Rien chez eux ne se constitua tout d'une pièce, mais tout au contraire y dériva d'importations d'idées étrangères. Cependant, le principe de l'unité indissoluble de la religion et de l'État se trouve dans les républiques grecques et dans la république romaine, comme chez les nations dont nous venons de parler. Chez les peuples d'Orient, le gouvernement n'était qu'un corollaire de la religion, et par conséquent l'État, c'était encore très ostensiblement la religion. Chez les Grecs et chez les Romains, la religion, au lieu d'engendrer la loi civile d'une façon patente et reconnue, se mit, pour ainsi dire, sous le patronage de cette loi, sans perdre pour cela son caractère. Je m'explique. Il est incontestable que chez les Romains, par exemple, la religion était aussi ancienne que la société. Ce peuple, en effet, ne rapportait-il pas à Numa ses premières lois religieuses et ses premières institutions politiques et civiles? Mais la source de ces lois religieuses, leur théorie, leur métaphysique, leur théologie en un mot, était demeurée inconnue ou s'était entièrement perdue après un certain nombre de générations. Il n'était resté que des rites, des cérémonies, des traditions et des institutions. Qu'arriva-t-il donc? Il arriva que l'alliance de la religion et de l'État s'établit au sein de ces institutions. On ne put pas dire que le gouvernement dérivait rationnellement d'une certaine théologie, ce qui n'empêcha pas que la religion ne fît partie du gouvernement. Numa. Ainsi, pour prendre un exemple, Numa avait institué le collège des pontifes. Ce collège continua donc, pendant toute la suite des siècles, d'avoir la surveillance, sur ce qui concernait la religion, de juger les différends qu'elle occasionnait, d'en régler le culte, les cérémonies, et d'en expliquer les mystères. Cette institution, dis-je, se perpétua pendant toute la République et sous l'Empire. Et qu'arriva-t-il? C'est qu'elle devint politique au premier chef. Les patriciens la conservèrent pendant près de 500 ans. Elle passa ensuite en partie au peuple, puis les empereurs s'en emparèrent. Il en fut de même du collège des augures, dont on faisait remonter la création à Romulus. Il faut voir dans Cicéron l'immense pouvoir politique de ce conseil des augures, inférieur toutefois à celui des pontifes. « Rien, s'écrit-il, rien dans la République de plus grand, ni de plus beau que le droit des augures, il fait partie du gouvernement. » Et il le prouve, car ce pouvoir des augures allait jusqu'à dissoudre ou annuler les comices, ordonner en certains cas l'abdication des consuls, abolir des lois, etc. Voilà comme la religion se mit à Rome aux mains de la politique, c'est-à-dire que, délaissant la théologie proprement dite, se contentant de croyances vagues et superstitieuses, se recrutant et s'alimentant de tous les cultes étrangers, de toutes les idolâtries grecques et orientales, qu'elle admettait à condition de les surveiller et de les régler, elle fit alliance intime avec l'État, s'incorporant à lui et le forçant en même temps de s'incorporer à elle. À Rome donc, encore, la religion et l'État se confondirent. Au premier coup d'œil superficiel, on pourrait s'imaginer que la religion ne fut chez les Romains qu'une affaire de politique. En scrutant plus profondément, et en réfléchissant combien ce peuple était superstitieux, on dirait volontiers que sa politique et ses lois étaient gouvernées par les idées religieuses, et l'un et l'autre est vrai. Mais ce qui est vrai encore, c'est que le citoyen romain était investi du droit sacerdotal comme du droit politique, puisque le prêtre se confondait avec le magistrat, et que le sacerdoce était une magistrature. Cicéron, reproduisant dans son traité des lois l'esprit et probablement le texte même des anciennes lois romaines, commence sa législation modèle par cette loi. Que nul n'ait des dieux à part, que nul n'adore en particulier des dieux nouveaux ou étrangers, s'ils ne sont admis par l'État. Et commentant ce texte, il dit « Si chacun adorait des dieux à lui, soit nouveaux, soit anciens, mais étrangers, il y aurait confusion de religion. » Voilà donc la négation la plus positive de toute religion non autorisée par l'État. Toutefois, comme les Romains étaient dans l'usage de rendre des honneurs religieux aux mânes de leurs ancêtres, et que chaque famille noble avait ses rites à cet égard, conservés aristocratiquement de père en fils, Cicéron excepte ce culte des ancêtres. Que l'on conserve, dit-il, les rites de sa famille et de ses pères. À quoi il ajoute dans son commentaire, garder les rites particuliers de sa famille et de ses pères, c'est garder une religion, pour ainsi dire, de tradition divine. Mais craignant que par ce côté, la religion ne vînt à échapper d'une certaine manière à la surveillance et à l'autorité de l'État, il a soin de poser cette autre loi, que ceux qui ignorent l'ordre et la forme des célébrations, tant publiques que particulières, l'apprennent des prêtres publics. Que ceux-ci d'ailleurs forment deux classes, l'une qui préside aux cérémonies et aux autres sacrifices, l'autre qui interprète les réponses des devins et des prophètes que le Sénat et le peuple auront approuvées. Sur quoi il fait cette remarque, ceci intéresse non seulement la religion, mais la constitution de l'État, c'est la défense à qui que ce soit de célébrer, sans l'intervention des ministres publics, un culte particulier. Le peuple, en effet, doit toujours avoir en cela le consentement de la République et l'autorisation des chefs de l'État. Ainsi, point de Dieu qui ne dût être reconnu par l'État, point de religion qui n'eût besoin de cette autorisation, et de plus, point de cérémonie religieuse sans l'intervention des ministres publics constitués par l'État. Tel est le fond de la législation romaine sur ce point capital. On voit que si les Romains ont différé des peuples orientaux sur la relation de la religion et de la société politique et civile, ils ne se sont pas du moins écartés d'eux sur le principe même de cette union. Ils n'en ont différé que parce qu'ils n'ont pu faire engendrer directement, comme la logique le demanderait, l'État par la religion, ce qui les a conduits, pour arriver au même but, à subordonner ostensiblement la religion à l'État. Au fond et secrètement, ainsi que toute l'histoire l'atteste, le culte et l'État étaient, chez les Romains, indissolublement unis et identifiés. Ostensiblement, ils l'étaient encore, mais non pas comme chez les peuples qui ont eu une théologie développée. L'État à Rome ne procédait pas, ne relevait pas directement de la religion, il ne se disait pas une conséquence, un corollaire de cette religion, il se contentait d'en être secrètement inspiré et imprégné. Ostensiblement, au contraire, il s'arrogeait le droit sur la religion, ce qui, pour le résultat, revenait absolument au même. La religion, nominalement, ne dominait pas l'État, mais au contraire, nominalement, c'était l'État qui la dominait. L'identification de la religion et de l'État n'en subsistait donc pas moins. C'était une formule différente, voilà tout. Ne pouvant faire sortir l'État d'une doctrine religieuse complète et compacte, on avait fait de la religion un droit de l'État. Cette identification de la religion et de l'État à Rome se révèle bien clairement lorsque l'État se fait homme à l'époque de l'Empire. Alors, la religion se faisant également homme, on voit l'empereur être en même temps grand pontife, les deux pouvoirs qui au fond n'avaient jamais été distincts dans la République, mais qui au contraire avaient toujours gouverné ensemble d'une manière confuse pendant tant de siècles, se montrent encore réunis. Auguste s'arrogea le souverain pontificat, et après lui tous les empereurs, jusqu'à Gratien, furent à la fois empereurs et pontifes. Et quand Théodose, le successeur de Gratien, abolit cette charge, s'en était déjà fait du paganisme et s'en était fait aussi de l'Empire. Un autre pontificat allait bientôt surgir. Un autre pape allait, à Rome même, remplacer le pontifex Maximus. Un nouveau collège de pontifes viendrait un jour, sous le nom de cardinaux, se grouper autour de ce chef suprême de la religion, et les augures transformés ne devaient pas non plus manquer à ce nouveau pontife pour établir sa puissance sur le peuple romain, devenue l'Europe tout entière. Je n'ai pas besoin, je crois, d'insister davantage sur la constitution romaine pour prouver l'union intime de la religion et de l'État chez ce peuple. Cette vérité me paraît mise hors de doute par le peu que je viens de dire. Si je voulais m'étendre à ce sujet, les antiquités de Rome, qui nous montrent la plèbe exclue à la fois du droit de cité et du droit de religion, comme de deux droits qui ne peuvent aller l'un sans l'autre, me fournirait une belle confirmation. J'aime mieux m'attacher à indiquer en quelques mots la loi générale du progrès que l'humanité a fait en passant des nations orientales aux Grecs et aux Romains, puis des Romains à ce que nous sommes aujourd'hui.